France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour, si je vous dis Picasso et la musique, vous voyez sans doute apparaître le rideau de scène de Parade, le ballet de Cocteau et Satie avec son cheval ailé, ou bien les costumes bigarrés conçus pour le Tricorne, ou bien encore les célèbres portraits de Stravinsky ou de Falla, maintes fois reproduits sur les pochettes de disques. Mais la place de la musique dans l'univers du peintre espagnol ne se limite pas à sa contribution à quelques spectacles ou dessins, et elle mérite une grande rétrospective. C'est ce que propose depuis le 22 septembre, et ce jusqu'au 3 janvier, la Philharmonie de Paris, une exposition intitulée « Les musiques de Picasso » qui permet d'appréhender, à travers un parcours thématique et chronologique, les rapports singuliers et ambigus de l'artiste avec un art qu'il disait ne pas aimer. Je vous propose de visiter cette exposition tout en feuilletant son catalogue en compagnie de sa commissaire, Cécile Godefroy, mon invitée. Les musiques de Picasso, une coédition Gallimard, Musée de la musique, Philharmonie de Paris. L'ouverture de Pulcinella d'Igor Stravinsky, c'était le Sinfonietta de Londres dirigé par Esa-Pekka Salonen. Bonjour Cécile Godefroy.
Bonjour.
Vous êtes donc la commissaire de cette exposition, les musiques de Picasso qui se tient jusqu'au mois de janvier, la Philharmonie de Paris. On voit dans Paris les affiches pour cette exposition. La couverture du catalogue reprend la même illustration. C'est la flûte de Pan, une peinture de 1923 qui vient du Musée National Picasso Paris. Et j'ai envie de vous dire, c'est une peinture qui, paradoxalement, on voit effectivement un joueur de flûte de Pan et quelqu'un qui est à côté, derrière la mer. C'est une peinture qui est paradoxalement silencieuse. Alors que le reste de l'exposition montre le rapport de Picasso à la musique qui est plutôt, on est plutôt dans le bruit, dans le brouhaha, dans une sorte d'effervescence permanente.
Oui, tout à fait. C'est une peinture singulière. C'est un des chefs-d'œuvre du Musée national Picasso Paris, ouais. Que nous sommes très heureux de pouvoir présenter dans l'exposition et que Picasso a réalisé à son retour d'un séjour à Antibes, donc pendant l'été 1923. Il est à Paris. Il reprend des études préparatoires qui représentaient plusieurs personnages, dont un jeune homme à la flûte de Pan. Et puis finalement, il réalise cette grande composition assez statique, assez mélancolique, que l'on peut comprendre comme une sorte de rêverie antique, un moment nostalgique, et qui contraste en effet avec toutes les œuvres qu'il a pu réaliser à partir de 1946, donc plus de 20 ans plus tard, quand il s'installe définitivement dans le sud de la France. Et quand cette antiquité, et notamment antiquité musicale, le reprend, et où les peintures, les sculptures, les céramiques chantent une véritable joie de vivre avec une énergie, une frénésie dans la composition, dans la danse des bacchantes et des faux musiciens.
Et cette effervescence, on la retrouve dès la première salle, parce que j'ai dit qu'il y avait un parcours thématique et chronologique, il y a donc 9 salles ou espaces, j'ai envie de dire, des musiques d'Espagne aux peintres musiciens, passant par les ballets, les amitiés musicales et justement Pan. Dans les tout premiers tableaux que l'on voit, on est plongé dans l'univers des cafés-concerts, des music-halls, des musiciens de rue de l'Espagne et de l'Andalousie natale de Picasso. Donc là, au contraire, c'est une peinture qui est extrêmement bruyante, j'ai envie de dire, extrêmement sonore.
Oui, ce sont très certainement les musiques que Picasso préférait, c'est-à-dire des musiques d'ambiance, comme vous venez de le dire, des musiques de rue, des musiques de cabaret, de café-concert. Il y a aussi la musique de cirque, la musique de corrida, bien sûr, la musique gitane qui se joue dans la rue de façon spontanée. Et il assiste à ces scènes de danse et de chant dans les rues de Malaga quand il y vit avec sa famille. Donc ce sont en effet des musiques assez bruyantes. C'est le trait sonore que Picasso semblait affectionner davantage que les musiques savantes ou symphoniques qui s'écoutaient en salle de concert.
Alors, j'ai dit en introduction qu'il disait ne pas aimer la musique. Cette citation un peu fameuse est reproduite en quatrième de couverture, donc justement du catalogue. Au fond, quand on parle d'art abstrait, on dit toujours que c'est de la musique. Quand on veut en dire du bien, on parle musique. Tout devient musique. Je crois que c'est pour ça que je n'aime pas la musique. Bon, évidemment, il y a un peu de provocation dans cette assertion de Picasso qui date de 1966. Comment est-ce qu'il faut la comprendre, Cécile Godefroy ?
Alors, il faut déjà la prendre avec beaucoup de prudence, puisque c'est un propos rapporté par une proche de l'artiste, Hélène Parmelin. Et puis aussi, comme vous l'avez dit, voilà, il y a une part de provocation. Et lorsqu'on lit un peu plus attentivement donc cette citation, on voit qu'elle parle surtout du rejet de Picasso de l'art abstrait. Picasso est un grand peintre de sujet, un grand défenseur de la peinture de sujet, de la peinture figurative. Il ne comprend pas et rejette totalement l'idée même de l'art abstrait, et donc c'est l'association de l'art abstrait avec la musique qui est tant faite au XXe siècle par les critiques, les artistes, qu'il rejette finalement, plutôt que la musique elle-même, qui, comme on peut le voir dans l'exposition et dans les musiques de l'exposition, est partout présente dans sa vie et dans son œuvre. Thank you.
Bien sûr, ça gratouille, ça crachote un peu, mais c'est enregistrement en 1930, juin 1930. C'était Ricardo Vignes qui interprétait la Séguédie, extrait des Chants d'Espagne d'Isaac Albéniz. Et Cécile Godefroy, ça fait partie des musiques que l'on peut entendre en parcourant cette exposition, les musiques de Picasso, puisqu'il y a évidemment une exposition consacrée à la musique. Il y a plusieurs endroits où on peut écouter la musique. Alors comment s'est fait justement le choix des musiques qui allaient illustrer cette exposition, Cécile Godefroy?
Donc, nous avons travaillé en collaboration avec Élise Petit, musicologue et conseillère musicale de ce projet, pour composer le parcours sonore qui accompagne en effet le parcours de l'exposition. Nous avons privilégié les enregistrements d'époque
ouais.
Et en cherchant à chaque fois à relier l'enregistrement, le choix du morceau à un épisode de la vie de Picasso ou à une œuvre, de façon à être le plus proche possible de la réalité de l'artiste. Ici par exemple, cette musique d'Albéniz que Picasso a pu entendre, a peut-être pu croiser d'ailleurs quand il était à Barcelone, jusqu'en 1904. Et nous avons choisi une interprétation de Ricardo Vignes que Picasso connaissait très bien et fréquentait, là aussi, entre Barcelone et Paris. Donc, nous avons procédé de même pour toutes les sélections musicales, une quarantaine d'enregistrements qui s'écoutent essentiellement à l'audiophone, de façon à ne pas surimposer la musique au parcours d'œuvre et rester ainsi fidèle à ce rapport un peu distancié qu'avait Picasso de la musique. Il n'écoutait pas de musique dans son atelier, donc il fallait que cette musique reste un tout petit peu à distance.
Et on a l'impression justement, Cécile Godefroy, que Picasso appréciait la musique, la voyait presque plus qu'il ne l'entendait. Il l'appréciait pour son caractère visuel. Évidemment, je pense aux instruments, on va en parler, et puis aussi au phénomène social que la musique peut générer. Et pour un peintre, évidemment, c'est du pain béni, toutes ces scènes qu'il peut dessiner et croquer à l'envi. Il a possédé durant toute sa vie une quarantaine d'instruments de musique dont il ne jouait évidemment pas, mais apparemment, c'était le volume, les formes qui l'inspiraient.
Oui, il y avait, je pense, une vraie fascination pour les instruments chez Picasso, mais chez beaucoup de peintres, finalement. Puisque quand on regarde l'histoire de la peinture occidentale, les natures mortes aux instruments de musique et même aux partitions abondent depuis le XVIe siècle dans toute l'Europe. Donc ici, Picasso se situe dans une certaine forme de tradition, de sujet.
C'est ce que vous vous rappelez d'ailleurs dans votre texte d'introduction du 14. catalogue.
Oui, cette question de la tradition, elle est importante. Ensuite, Picasso en fait tout à fait autre chose et détourne finalement les usages de la représentation traditionnelle, notamment pendant toute l'épopée cubiste. Et donc, il s'entoure d'instruments qu'il collecte, pour la plupart des instruments à cordes, donc mandoline, violon et bien sûr la guitare, l'instrument espagnol par excellence, et qu'il cherche visiblement à comprendre, à connaître, à décortiquer pour pouvoir mieux le recomposer sous la forme de tableaux, de dessins ou encore de petits assemblages en papier ou en carton qui sont réunis dans l'exposition.
Exposition qui compte quelques 270
œuvres, tout support, toute époque confondue.
Dessins, tableaux, sculptures, céramiques, partitions.
Voilà, et aussi donc des photographies, des documents d'archives qui ont appartenu à Picasso, des objets et les instruments de musique, ce qui nous permet vraiment de rentrer dans une dimension plus personnelle aussi de la vie de Picasso, c'est-à-dire que on n'est pas juste dans une exposition qui présente son œuvre, on rentre dans une partie de sa vie au travers de ses relations avec les musiciens, les compositeurs, Manitas de Plata, Slava Rostropovitch, toutes ces correspondances qui témoignent de concerts auxquels il a pu assister, ou en tout cas auxquels il était invité. Et puis tous ces objets qui disent beaucoup finalement de cette vie d'atelier qu'il a pu partager, par exemple, avec Georges Braque pendant quelques années.
Cécile Godefroy, puisqu'on nous parlons de l'exposition, mais aussi du catalogue, puisque c'est une émission qui traite des livres. Le catalogue est donc coédition Gallimard, Musée de la musique. 300 pages, vraiment très très belle reproduction de tous les objets, avec quelques 25 contributions. Comment vous l'avez conçu, ce catalogue? Qu'est-ce que vous avez voulu montrer ou appréhender dans le phénomène la musique et Picasso, Picasso et la musique?
L'idée était d'en faire un ouvrage pluridisciplinaire, en tout cas qui rende bien compte de cette pluridisciplinarité du sujet. Donc Picasso, que l'on relie plutôt aux arts visuels, la musique, donc d'un côté l'art de l'espace, d'un autre l'art du temps. Et donc je n'imaginais pas ce catalogue sans la contribution, bien sûr, d'historiens de l'art, de spécialistes de Picasso, mais aussi de spécialistes de la poésie de Picasso, car la poésie, sa poésie est très musicale, elle est bercée de musicalité, de rythme, traversée d'instruments de musique, de sonorités autres, et puis bien sûr de musicologues. Et on a un apport très important dans cet ouvrage d'Élise Petit, dont nous parlions tout à l'heure, mais aussi par exemple de Nicolas Souton, autour de Francis Poulenc, l'acousticien Bruno Giganti a signé également un texte. Nous avons réalisé un entretien avec Gilles Chancerolles, luthier. Donc ce sont toutes ces collaborations qui, je pense, permettent de mieux cerner le sujet, et il fallait croiser les différents champs de connaissances pour, je crois, mieux comprendre quel était ce lien de Picasso à la musique.
Madame Henri Rousseau, notre ballon captif. Elle tient un arbrisseau et le douanier Rousseau prend son apéritif. Dévore le cheval de fiacre.
Le baryton Jean-François Gardeil, accompagné par Billy Eddy au piano, c'était un des 8 poèmes de Jean Cocteau, hommage à Éric Satie, musique de Georges Auric. Cécile Godefroy, on a évoqué, vous l'avez évoqué déjà, Poulenc. Je voudrais qu'on se penche un peu sur les amitiés musiciennes de Pablo Picasso. J'ai évoqué en introduction Satie, cet extrait de Auric nous ramenait. Il y a la période, effectivement, des ballets russes, avec le Tricorne, Parade, Stravinsky, Pulcinella, on a entendu en introduction, le Train bleu, et puis aussi d'autres compositeurs. En fait, toute sa vie, il a été entouré, il a côtoyé des musiciens, pour quelqu'un qui disait ne pas aimer la musique.
Oui, en effet, tout commence en Espagne, à nouveau, hein, où sa famille comptait quelques musiciens. Et puis, donc à Malaga, et puis quand il s'installe à Barcelone, il est encore tout jeune, il a à peine 14 ans, mais très rapidement, il va fréquenter donc les cafés chantants, les cafés-concerts, les cafés-cabarets, qui jalonnent toute cette Barcelone moderne, qui est en pleine effervescence, tournée vers Paris, et où s'ouvre donc le Quatregats, que Picasso va beaucoup fréquenter. Au Quatregats se réunissent des peintres, des sculpteurs, des poètes et des musiciens. Donc, dès cette époque, il est entouré, il vit et il se forme finalement à proximité d'autres formes d'expression. Et ça, je crois que c'est très important pour comprendre la manière dont il va évoluer ensuite tout au long de sa vie. Donc quand il arrive à Paris en 1900, très naturellement, il continue de fréquenter des poètes et des musiciens, à s'intéresser bien sûr à la musique, à ces musiques d'ambiance dont nous parlions en début d'émission. Et les musiciens vont ainsi l'accompagner tout au long de sa vie. Avec une période peut-être plus connue, un peu plus mondaine, qui est en effet celle des ballets, donc à l'initiative de Jean Cocteau et de Serge Diaghilev, Picasso commence à collaborer avec la troupe des ballets russes en 1917, avec la création de Parade, sur une musique d'Éric Satie, une chorégraphie de Léonide Massine. Et puis, ce ballet va pour lui ouvrir un champ très large de rencontres, d'amitiés, et notamment avec le groupe des Six. Thank you.
Extrait de la bande originale du film Picasso, Guerre, amour et paix de Lucien Clergue. C'était de Manitas de Plata, des taureaux et des toreros. Cécile Godefroy, nous voilà retournés en Espagne et ce bruit que vous évoquiez tout à l'heure, ce bruit de foule qu'émet tant Picasso, et on voit d'ailleurs Manitas de Plata durant cette exposition.
Les musiques d'Espagne constituent un chapitre très important dans l'exposition. C'est une section qui ouvre le parcours chronothématique et qui, on le voit bien, dépasse les limites chronologiques des premières années, puisque nous retrouvons ce fil conducteur tout au long de la vie de Picasso, et notamment quand il s'installe dans le sud de la France, où il reprend goût aux corridas, les corridas de Nîmes, de Valoris, qu'il préside généralement, et qui s'accompagne de musique, hein, le Paso Doble, entre autres. Et puis, il fait la connaissance de Manitas de Plata, l'homme aux petites mains d'argent, grâce au photographe Lucien Clergue. Et on voit au travers d'un ensemble de photographies, il y en a une dans l'exposition, combien ces moments partagés étaient précieux à l'artiste, puisqu'il il lui redonne accès à cette Espagne natale, cette Espagne sonore, où il ne va plus, où il ne se rend plus depuis 1934, en raison donc de la guerre civile et de l'accession au pouvoir de Franco.
Très bien, merci beaucoup Cécile Godefroy. Je rappelle êtes la commissaire de cette exposition, Les musiques de Picasso, qui se tient jusqu'au 3 janvier à la Philharmonique de Paris. Et le livre qui l'accompagne, le catalogue de cette exposition, coédité par Gallimard et le Musée de la musique Philharmonie de Paris. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Laurent Lefrançois, à la technique Philippe Mercher, Annick Aumier, attachée de production. La semaine prochaine, je serai en compagnie de François Mémoun. Nous resterons dans le XXe siècle puisque nous parlerons de la première sonate pour piano de Pierre Boulez. D'ici là, excellente journée à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.